Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
On va commencer une nouvelle série. Peut-être vous l'avez entendu, peut-être pas. Ici, on aime commencer et puis vraiment fonctionner en série. Ça veut dire qu'on va vraiment attaquer un sujet ou un livre de la Bible pendant plusieurs semaines. Et là, on a la chance de commencer une nouvelle série qui est intitulée « Cœur entier », qui va en fait se tourner autour du livre de Josué. Le livre de Josué, c'est un livre qu'on trouve dans l'Ancien Testament. C'est le premier livre historique, on appelle ça, de l'Ancien Testament. Et en fait, qui raconte, et on va voir un petit peu plus ça en détail tout à l'heure, donc vous inquiétez pas, mais qui raconte vraiment l'histoire des Israélites sur des centaines d'années en vrai. Mais on va se concentrer là sur le livre de Josué et ce qui s'y passe autour de cette question fondamentale. Ça ressemble à quoi d'avoir un cœur entier pour Dieu ? Donc, pour ça, petite anecdote du jour, cette semaine a été une semaine spéciale. Est-ce que vous savez pourquoi ? Ah oui, il y a eu jeûne et prière, effectivement. Un truc un peu moins, du coup, en lien avec la communauté, un truc que tout le monde a vécu. Hein. Le 29 février. Tous ceux qui ont eu leur anniversaire le 29 février, bravo, c'est l'année où vous pouvez le fêter. Il y a quelqu'un ici qui est né le 29 ? Non ? Christophe, c'est vrai. Il est où ? Il est... Ah, mais non, il n'est pas là. Il est à l'autre bout du monde. Mais écoute, joyeux anniversaire, Christophe. Du coup, c'était l'année... On est dans l'année bissextile. C'est comme ça que ça s'appelle. Est-ce que vous connaissez l'histoire de comment c'est arrivé ? Parce que c'est vraiment fascinant. Je vais vous la raconter en version très, très courte. Je suis un peu une personne curieuse de nature. Et du coup, quand il y a des choses comme ça qui se passent, je suis là, mais à quel moment on a décidé de ça ? Donc en fait, là, je vous ramène en moins 46 avant Jésus-Christ, nous y sommes. Il y a l'Empire romain qui vit avec 355 jours par année, en sachant que la Terre tourne autour du coup du Soleil en 365 jours. Écart, très important, le petit détail. Donc là, ça fait des années que le peuple romain vit avec 355 jours. Et là, tout à coup, on commence à arriver à un moment où en avril, il fait un froid glacial. C'est l'hiver comme en décembre. Il y a un petit souci qui se passe en termes de leur calendrier. Puis là, Jules César, qui était l'empereur à l'époque, dit... Ça suffit, cette confusion. Littéralement, l'année moins 46 était connue comme l'année de la confusion. Tellement que c'était chaotique, cette histoire. Donc là, Jules César, empereur plein de sagesse, a décidé, il faut que j'aille un astronome sous le nom de Saucigène qui vienne m'aider. Et c'est un vrai nom, hein. J'invente pas l'histoire. Qui vienne m'aider à régler ce machin de calendrier qui joue pas. Donc là, ils se sont décidés, je vous la fais très courte, hein, qu'en gros, à partir de cette année, on va rajouter déjà 2 mois à l'année parce que pour régler déjà un petit peu ce qui se passe. Et ensuite, chaque année qui vient, en fait, on va rajouter 10 jours à chaque année, plus une année bissextile tous les 4 ans pour réguler le écart de la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc autant vous dire que l'année moins 46 pour les Romains était très intense. Imaginez, vous êtes né un mois de l'année, tout à coup, il y a tout qui change. Hein. Ce n'est plus votre mois de l'année, en fait. Parce que du coup, il y a 10 jours qui se rajoutent dans le calendrier. Enfin, vous imaginez un petit peu le bouleversement que ce changement a créé. C'est un changement qui a été décidé en un instant T. Mais ce changement a provoqué une transition énorme pour les Romains à cette époque-là. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte toute cette histoire ? Parce qu'en fait, dans le passage biblique qu'on va lire ce matin dans Josué, en fait, on retrouve les Israélites exactement dans la même situation. On les retrouve à un moment de changement intense, un moment où en fait, ils doivent se réadapter à quelque chose de nouveau, tout comme les Romains ont dû le faire en moins 46. Et puis en plus, je me suis dit, pour notre culture générale, ça ne fait pas de mal. Donc on va lire du coup Josué au chapitre 1, les versets 1 à 11. Ça sera affiché au-dessus de moi. Si vous avez vos Bibles, prenez-les aussi. Voilà ce que la Bible nous dit. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, tellement intense. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne aux Israélites. Petite parenthèse, tout ce peuple, c'est 2 millions de personnes et plus. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tous les pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que je vous ordonnerai au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel vous donne. Dont l'Éternel, pardon, votre Dieu, vous donne la possession. Ok, un long passage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Du coup, pour un peu de contexte, pour comprendre un peu l'intensité de ce qui se passe, je vais vous donner un petit peu du contexte de là où se retrouvent les Israélites dans ce passage-là. Et pour ceux et celles qui prennent des notes, mon premier point ce matin, c'est entre le deuil et la promesse. Dans ce passage, Josué est confronté à un défi colossal. Il doit prendre la relève après la mort de Moïse, le leader des Israélites pendant plus de 40 ans. Pour vous donner un peu du contexte, ça faisait 400 ans que les Israélites étaient en esclavage en Égypte. Moïse se lève, est le libérateur pour ce peuple-là, et pendant 40 ans qui suivent, ils sont dans le désert avec comme leader principal Moïse. En fait, Moïse était plus que juste un leader, c'était vraiment une boussole pour eux par rapport à ce que Dieu disait et la direction dans laquelle il fallait aller. Donc là, alors qu'ils s'apprêtent à rentrer dans la terre promise, alors que Dieu dit à Josué, préparez-vous parce que vous allez aller dans la terre promise, Moïse est mort. Et pire que ça, Moïse est mort et porté disparu, on ne sait pas où il est le gars. C'est juste Dieu qui dit si jamais il est mort. Ils doivent quitter le désert, ce qu'ils ont connu pendant toute une génération et plus. Leur maison, si vous voulez, c'est ce qu'ils connaissaient jusqu'à là. Tout ce qui était connu, leur repère familier, toutes ces choses-là, ils le quittent parce qu'ils doivent se préparer pour aller à la terre promise. C'est une période de transition énorme pour les Israélites. Ils perdent leur repère, ils perdent leur leader. Il y a un nouveau leader qui vient en place, un nouveau mandat qui reste le même que le début d'aller à la terre promise. Et je pense que pour les Israélites, ils avaient une image très claire de comment ils allaient rentrer dans la terre promise. Et je peux vous promettre que, ce n'était pas sans Moïse. Ils perdent tous leurs repères. Et en fait, on retrouve les Israélites vraiment dans un moment qui ressemble beaucoup à ce que les Romains ont dû vivre en moins 46 avec le changement du calendrier. Les Israélites, tout comme on l'a vu avec les Romains, ils font face à des énormes changements qui vont devoir bouleverser et qui vont provoquer un bouleversement dans leur vie. Et ce moment de l'histoire des Israélites fait profondément écho à un modèle de transition qui a été développé par un consultant qui s'appelle William Bridges. Alors, pour tout ce que je vais vous dire à partir de là, vous pouvez remercier mon père qui s'est spécialisé dans les transitions. Mais en fait, il y a un modèle de transition qui a été développé et puis C'est tout comme en fait les Israélites font face à un changement majeur. En fait, le modèle de Bridges, il va reconnaître qu'il y a des changements externes qui se passent, des fois provoqués, des fois non voulus, des fois ça nous arrive sans qu'on le décide. Mais en fait, ce changement va provoquer une transition interne. En fait, c'est la façon dont nous on va s'adapter au changement. Si vous me demandez ce que c'est la différence entre changement et transition, c'est ça. Et ce modèle qu'il a développé est composé notamment de trois phases. Les trois phases, je vais vous les expliquer vite fait, mais la première phase, c'est la fin, c'est assez explicite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'apprête à finir ou quelque chose qui finit ou qui change. Ça peut être, en fait, je vais arrêter mon travail ou je vais devenir parent ou en fait, j'ai perdu quelqu'un qui m'est cher. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous connaissez aussi de votre vie là-dedans, mais il y a une fin. Et puis cette fin, en général, elle est caractérisée par de la tristesse, mais aussi par de l'anticipation, par de la préparation, par aussi de l'excitation, un peu ce truc de « ah, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Il peut y avoir aussi de l'inquiétude. Et ensuite vient un temps de zone neutre, ils appellent ça dans la deuxième phase. La zone neutre, elle est caractérisée par de la confusion, notamment. Elle est caractérisée par des questionnements, de l'apathie parfois. Des fois, il y a aussi des moments, juste des épisodes dépressifs de « mais en fait, il se passe quoi ?» C'est vraiment cette phase-là, c'est « mais ma vie, elle va ressembler à quoi exactement ?» C'est en fait, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, mais je n'ai pas encore commencé l'autre chose. Il y a une zone neutre. En termes militaires, c'est le « no man's land ». Ça veut dire que je pars du camp de mes alliés, j'arrive dans un terrain inconnu pour arriver. Alors là, ça ne sera pas le camp des ennemis, mais il y a un « no man's land ». En fait, il se passe quoi là-dedans? On ne sait pas trop. Il y a une confusion qui peut se passer ici dedans. Et ensuite vient le nouveau commencement, où là, du coup, on commence vraiment à accepter puis à s'adapter à cette nouvelle situation. Et là, le passage qu'on vient de lire dans Josué, en fait, on retrouve les Israélites, mais à 100% dans la zone neutre. C'est pour ça que ma première partie s'appelle « Entre le deuil et la promesse ». Ils viennent de perdre Moïse, il y a un nouveau leader qui se met gentiment en place, ce fameux Josué. Et en plus de ça, ils nous disent « préparez des provisions » parce qu'en fait, on va aller à la terre promise, mais on n'y est pas encore. Pourquoi on se prépare? Ça va ressembler à quoi quand on y va? Tu te rends compte qu'on doit laisser tout ce qu'on connaît jusqu'à là? C'est là où on retrouve les Israélites. Ils sont dans leur zone neutre. Petite parenthèse, c'est pas figé, ces trois phases. Vous pouvez vivre les émotions et puis les choses de l'un et l'autre en même temps. Mais c'est généralement ce qui est reconnu comme modèle de transition. Et là, on retrouve vraiment les Israélites qui sont sur le point d'entrer dans la terre promise, mais sans Moïse pour les guider. Ils sont vraiment entre le deuil et la promesse. Ils sont en plein dans la zone neutre de la transition. Maintenant, c'est bien beau de le voir comme ça et dire « purée, ça a dû être difficile ». Mais si je le reprends à notre contexte à nous, dans notre marche de disciples, à la lumière de ce passage-là, de ce qu'on vient de lire, en fait, on va réaliser plusieurs choses. Un, ça paraît bateau, mais ceux qui me connaissent, j'aime les choses bateau parce que c'est profond en général. Un, on va vivre des changements. On va, et vous avez sûrement déjà tous vécu des changements, dès que vous avez choisi, ça ne rend pas la transition plus facile, mais dès que vous avez choisi, dès qu'ils vous ont été un peu comme lancé dessus, mais on a tous vécu des changements. La deuxième chose, c'est du coup, puisqu'on vit tous des changements, il nous faut apprendre à vivre les transitions. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Ce n'est pas quelque chose, ah, c'est bon, j'ai vécu le changement, ça veut dire que la transition, elle suit. Ah, pas du tout. Croyez-moi, avec un père qui travaille là-dedans, j'ai vu assez de personnes galérer avec leur transition. Bien que le changement ait pu avoir lieu il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, enfin, vous nommez l'année. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut apprendre à vivre dans la transition et dans la tension, notamment des transitions avec Dieu. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, naturellement, ces transitions vont devoir inclure l'inconfort de la zone neutre dans laquelle les Israélites se sont aussi trouvés. Et je pense que chacun et chacune d'entre nous, alors que je parle de ça, on peut peut-être retracer un moment de notre vie où on a vécu ça. On peut peut-être Peut-être que pour toi, tu y es aujourd'hui. Tu y es dans cette zone de transition, cette zone neutre de transition qui est méga inconfortable, où il y a plus de questions que de réponses, où il y a pas mal de confusion. Une période qui est floue, une période qui est instable, où les choses semblent très peu claires. Ça peut être un changement de vie, mariage, accueil d'un nouvel enfant, perte d'un proche, vous les nommez. Ça peut être quelqu'un qui aussi subit tout à coup des problèmes de santé. Il y a tellement de choses qui peuvent provoquer ces changements-là. Mais la réalité, c'est qu'on va tous et toutes vivre les changements comme les Israélites l'ont vécu. Et je pense que Dieu n'a pas mis Josué 1 dans la Bible pour rien. Et je pense que notre Dieu est un Dieu qui en a bien à faire à nos transitions et comment on les vit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en parler de comment est-ce qu'on vit nos transitions avec Dieu en tant que disciples qui suivent Dieu. Qu'est-ce qu'il nous apprend, en fait, sur la façon de vivre ces transitions. Et j'aime cette citation, je pense que vous la connaissez, je ne sais pas, mais c'est d'Héraclite d'Éphèse, il dit « Rien n'est aussi constant que le changement ». C'est drôle. Enfin, moi, je trouve ça drôle. La théorie est drôle, la réalité est bien moins drôle, on s'entend. Mais en fait, c'est tellement vrai. Je disais à quelqu'un, quand je traversais encore la 20e transition de ma vie, je disais « Mais en fait, c'est fou, j'ai l'impression que toute ma vie, je serai en transition ». Et c'est un peu vrai. Rien n'est aussi constant que le changement. Et chacun et chacune d'entre nous, on l'a déjà vécu, on va continuer à le vivre. Et je pense, du coup, c'est pour ça que c'est important qu'on soit équipé à savoir comment les vivre avec Dieu. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on va à un moment donné dans notre vie vivre cet inconfort de la zone neutre. Mais la question, ce serait plutôt comment est-ce qu'on va choisir de vivre ces moments de transition quand on se retrouve dans la zone neutre avec Dieu. Et je mets l'emphase sur « avec Dieu », c'est comment est-ce qu'on va littéralement l'intégrer dans ces moments de transition et ces moments de zone neutre où, en fait, la plupart du temps, on aura envie de le mettre un peu de côté. Comment est-ce qu'on va vivre ces transitions avec un cœur entier pour Dieu ? Pour attaquer cette grande question, j'aimerais l'aborder sous un angle peut-être un petit peu différent aujourd'hui. J'aimerais commencer par Dieu dans cette histoire de transition. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? On va parler de Dieu, pas de nous. C'est génial. En fait, une des grandes questions qu'on pose à Dieu dans nos transitions, et surtout dans nos zones neutres, c'est « Dieu, où est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu fous ?» Si on parle un langage un peu familier avec Dieu. Moi, je lui ai déjà dit, j'avoue, il y a... 2018, ça fait 6 ans. Il y a 6 ans, j'étais aux États-Unis pendant quelques années. Je déménage en Suisse pour une période de 6 mois. Où pendant 6 mois, je vous mets dans ma tête, là. Hein, je règle mes affaires admin pour partir en tant que missionnaire long terme aux États-Unis. Ça, c'est moi en 2018. Enfin, fin 2017, pardon, soyons exacts. Arrive 2018, il y a des petits pépins administratifs parce que je n'ai pas habité sur le sol suisse pendant 5 ou 10 ans, je ne me rappelle plus. Et puis là, vient un choix. De dire, OK, mais en fait, là, je n'ai pas compris. Parce que moi, je pensais qu'il y aurait un changement. Et tout à coup, en fait, le changement que j'avais en tête, que je pensais profondément venait de Dieu, en passant, change. Mais alors radicalement, parce que du coup, je me retrouve en Suisse. Non, je rigole, j'aime la Suisse, hein. je suis suisse de base. Mais en fait, je me retrouve en Suisse. Et en fait, j'étais là, mais c'est pas possible, ça va pas. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Zone neutre arrive, période de transition. Et là, je suis là, ben alors qu'est-ce que je fais en Suisse ? Et Dieu, tu m'as dit des choses, mais en fait, tu m'as trahi. En fait, tu m'as donné des promesses, mais qui ne se réalisent pas du tout. Ça s'appelle la trahison. Non, parce qu'il faut que je lui dise quand même. Et en fait, je me suis retrouvée dans cet inconfort et le chaos de la zone neutre pendant Yves et Jaysa, pendant je ne sais pas, quelques mois. Et c'était horrible. Mais en fait, ce qui est ressorti de là, honnêtement, les trésors qui en ressortent sont incomparables. Mais j'ai dû choisir de rester dans cette zone neutre. Et une chose qui m'a le plus marqué, c'est comment Dieu s'est révélé durant cette période-là de zone neutre. Et puis moi, je vous ai parlé d'une expérience à moi. Je pense que vous pouvez aussi imaginer, vous, les moments de transition, les moments de tension comme ça qui se sont passés dans vos vies. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais commencer à répondre à cette question qui est comment est-ce qu'on va vivre ces transitions avec un cœur entier pour Dieu, avec Dieu. Parce que c'est lui le facteur déterminant dans cette histoire. Si on veut développer un cœur entier pour Dieu dans les transitions, il nous faut découvrir le cœur entier de Dieu dans nos transitions. Et c'est ce qu'on va découvrir un petit peu dans mon deuxième point. C'est mon deuxième et dernier point, mais c'est un peu faux parce qu'il y a 4 sous-points. Mais c'est mon deuxième et dernier point, et ce point, il s'appelle « Dieu dans la zone neutre ». Il y aura comme, justement, 4 sous-points. Et puis, en fait, s'il y a une chose avec laquelle j'aimerais qu'on commence cette série de cœur entier, c'est comment est-ce que Dieu se manifeste dans nos vies? Comment est-ce que lui, il a un cœur entier pour nous, dans nos vies, dans nos transitions et dans nos zones neutres? Et s'il y a une chose qui est certaine en lisant Josué 1, c'est que Dieu est profondément impliqué et présent dans nos zones neutres. En fait, c'est assez simple. Si Dieu s'était désisté dans la zone neutre des Israélites, Josué 1 n'existerait pas. Parce que Josué 1, en tout cas des versets qu'on a lus là, les 11 versets qu'on a lus, c'est 8 Dieu qui parle à Josué sur ce qu'il est en train de vivre, de comment aller de l'avant, quoi faire, qu'est-ce qui se passe. 8 versets sur 11. Et vous savez ce que c'est les autres versets? C'est Josué qui raconte au peuple ce que Dieu lui a dit. Donc bon, Dieu est impliqué. Dieu est présent dans notre zone neutre. Il ne nous abandonne pas, il ne part pas, il ne se désiste pas. En anglais, il dit « il est all in ». Il est entièrement là, présent dans nos zones neutres. Mais ce n'est pas tout. Il y a le passage qu'on a lu, il nous révèle vraiment 4 choses, et c'est ces 4 points dont je vais rapidement parler, sur la façon dont Dieu nous accompagne et se manifeste présent durant nos zones neutres. Et j'aimerais les identifier avec vous pour qu'on puisse en fait les voir comme des choses auxquelles nous, on peut se raccrocher aussi durant notre période de transition, durant nos périodes de zone neutre. Là où il y a les questions, les confusions, les qu'est-ce qui va se passer, quand, comment. Je vous ai facilité la vie, pour ceux qui prennent des notes. Ça sera 4 mots qui commencent par la même lettre, la lettre P. D'accord ? On a, je vais vous les donner maintenant, la présence, la provision, la protection et les promesses. Présence, provision, protection et promesses. Je vais commenter un peu chacun d'entre eux, mais il faut qu'on réalise que Dieu nous donne ça comme pain quotidien dans nos zones neutres. La première, c'est la présence de Dieu. J'y ai déjà touché un mot. Verset 9 dit « Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Vous savez ce qui est drôle dans ce verset-là? C'est qu'en fait, de un, c'est exactement la même chose qu'il a dit à Moïse, donc le leader avant. Mais en plus de ça, Josué, il est là, il s'apprête à partir. Et là, Dieu le rassure. Où que tu ailles, je serai avec toi. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que souvent, quand Dieu nous fait cette promesse, où que tu ailles, je serai avec toi, on oublie qu'il est présent dans le moment où il nous le dit. On aime bien l'idée que Dieu est présent avec nous dans la terre promise. On aime bien l'idée qu'après coup, Dieu est avec nous là où on va s'en aller. Mais en fait, est-ce qu'on réalise que Dieu est présent là? À l'instant où il nous le dit, Dieu est là. Il est impliqué dans ta zone neutre. Ta zone neutre n'est pas une parenthèse dans ta vie, n'est pas une pause dans ta vie. Il est là, il est présent. Pour ceux qui aiment les pépites dans les messages, je vais vous le donner. Une chose qui vient avec la présence de Dieu, c'est sa parole. Et une chose qui vient avec la parole de Dieu, c'est des directives. Je ne vais pas en parler plus aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Croyez-moi, ça m'a pris du temps pour arriver à genre 35 minutes. Mais la présence de Dieu vient avec sa parole vient avec des directives. Il ne vous laisse pas sans repère. Mais ces repères, on va devoir apprendre à les trouver dans sa présence. All right, deuxième point, provision. La provision de Dieu, les versets 2 à 4. « Mon serviteur Moïse est mort. » Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Vous savez ce qui est fascinant dans ce verset ? C'est que Dieu donne. Et là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que, encore une fois, pas le temps. Mais Dieu est en train d'appeler tout un peuple à la conquête d'une terre. Mais Dieu dit en même temps que Dieu a donné cette terre. Et vous verrez, si vous relisez ce passage, c'est fascinant. Ce jeu entre vous allez prendre la terre et prendre possession de la terre que je vous donne. Ah, mais à ce moment-là, il faut vraiment qu'on prenne possession ? Parce que si tu l'as déjà, tu me la donnes. Dieu cherche à ce que tu sois partenaire dans la provision qu'il te donne. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que dans cette zone neutre, Dieu va te rappeler de ce qu'il te donne. Dieu va te rappeler de la provision qu'il a pour toi dans ta zone neutre et pour ce qui viendra. La provision de Dieu est une chose, un repère à laquelle on peut se raccrocher durant nos zones neutres. Troisième P, protection de Dieu. Verset 5, « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Il y aurait énormément à dire sur la protection de Dieu parce que je pense que dans l'Occident, on a une compréhension de la protection comme aucune souffrance égale protection. Et je pense qu'on peut vivre dans cette illusion un moment, mais ça devient très difficile à la maintenir. Plusieurs connaissent ici l'histoire d'une très proche amie à moi qui est décédée vraiment subitement après l'accouchement de sa fille. Moi, je me dis, si j'avais cette réalité, cette compréhension de la protection de Dieu sur sa vie, ça veut dire que Dieu ne l'a pas protégée. Il y a un truc qui commence à clocher. Et si je vous laisse suivre et lire après la suite de Josué, je pense que si on maintient cette compréhension de la protection, on va avoir vraiment du mal avec le livre de Josué. Là, je vous donne des teasers pour que vous ayez envie d'aller lire Josué. Mais la protection de Dieu est quelque chose que Dieu nous donne dans les zones neutres, est quelque chose qu'il nous donne dans les moments de transition. Et je pense qu'en tant que disciple de Christ, on a besoin d'apprendre à réellement comprendre et accepter de vivre la protection de Dieu telle qu'elle est, et pas comme nous on l'aimerait. Ça veut dire quoi en fait, d'être protégé par Dieu ? Et vraiment, je vous pose la question et je ne vais pas forcément y répondre, parce qu'en fait, je pense que c'est une question qu'on a vraiment profondément besoin de se poser. Ça veut dire quoi être protégé par Dieu ? Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je vous donne un élément de réponse. Sa protection réside dans sa présence. Finalement, les promesses de Dieu. C'est le quatrième P. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je t'ai juré. À leurs ancêtres de leur donner. Juste ce verset, on ne réalise pas la profondeur de cette promesse-là. Ça fait 400 ans d'esclavage, 40 ans dans le désert où il dit « il y aura la terre promise, il y aura la terre promise ». Franchement, je pense pendant 5-10 ans, tu as « wouh, terre promise ». Après ta 30e année, tu as « ouf, est-ce que vraiment il y aura cette terre promise ?» Parce que franchement, moi, je me dis « c'est intense, c'est Moïse, le pire, Moïse. Le pire est le plus glorieux. C'est que le gars, il a vu la terre promise, mais il n'y a jamais allé. Je ne prie pas ça sur nous, mais en même temps, c'est une réalité biblique. Des promesses de Dieu. Une chose qui va se passer dans nos zones neutres, c'est qu'on va remettre en question les promesses. Et là, il faut vraiment m'entendre. Si pour certaines personnes, vous avez reçu des promesses, des convictions, peut-être des paroles qui vous ont été données, paroles prophétiques, on appelle ça, ou c'est vraiment des paroles qui vous ont été données par rapport à ce qui s'en vient de la part de Dieu. Si vous êtes là-dedans et que tout à coup, vous vous retrouvez dans une zone neutre, une des choses que vous allez faire, c'est remettre tout ça en question. Et entendez-moi bien, il y a une part où c'est juste. Il y a une part où c'est sain, où c'est bon de remettre à plat ce que Dieu nous a donné. J'ai dû faire ça le moment où je suis rentrée en Suisse et que finalement je suis restée en Suisse. J'ai dû remettre à plat devant Dieu tout ce que j'ai reçu. Dire Dieu, moi j'ai reçu ça, voilà ce que ta parole dit, ça. Je ne comprends pas comment c'est possible d'en arriver à là en sachant tout ça. Et en fait, ce que Dieu a dû faire, c'est commencer à travailler mes attentes face à ses promesses. La façon dont ça allait se réaliser, par exemple. Pour moi, c'était une énorme chose de dire, mais en fait, dans ma zone neutre, il faut que je réévalue la façon dont j'ai interprété ce qui m'a été donné, dans le contexte que je connaissais à ce moment-là. Dieu est tellement au-delà de notre temps, au-delà de ce qu'on connaît, que les paroles qu'il nous donne, qu'on reçoit, les versets, les passages bibliques, tout ça, il faut constamment qu'on revienne à lui, qu'on lui remette face à lui. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour la saison dans laquelle je suis? Qu'est-ce que ça veut dire dans cette zone neutre, en fait? Qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? Une chose que Dieu a dit à Josué, c'est médite la Bible pour que tu saches où aller. Médite la Bible. Prends la parole de Dieu et médite-la quand tu ne sais plus. Quand il y a une confusion intense face aux promesses qui t'ont été données, prends la parole. Médite-la parce que si il y a de la confusion dans les promesses, tu peux retrouver de la clarté dans la présence et la parole. Ça ne veut pas dire que Dieu va tout faire tout de suite, à l'instant T. Ça ne veut même pas dire qu'il va accomplir ses promesses dans la prochaine saison. Mais ça reste une promesse. Et notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Ce n'est pas un Dieu qui nous abandonne, c'est ni un Dieu qui trahit, c'est ni un Dieu qui dit « vas-y, va, voilà une promesse pour toi, mais en fait tu la verras jamais, je vais en fait jamais l'accomplir. » Peut-être que ce ne sera pas en ton temps, mais parce que ce n'est pas en ton temps, qui dit que ce n'est pas une promesse que Dieu tient? Et c'est pour ça l'importance de revenir à sa présence, qu'on puisse adopter sa perspective de nos promesses. Mais c'est une des réalités aussi, le quatrième P, à laquelle on peut se raccrocher dans nos zones neutres. Est-ce qu'on se rappelle des promesses que Dieu nous a données? Est-ce qu'on les cultive? Est-ce qu'en en fait, on garde ça aussi dans notre conversation avec Dieu? Et dans ces quatre P, il y a une chose que je veux mentionner, c'est que ces quatre P ne vont jamais partir. Ils ne vont jamais à un moment se dissiper. La présence de Dieu reste réelle. La provision de Dieu reste réelle. La protection de Dieu reste toute une réalité. Et les promesses de Dieu aussi. Par contre, ce qui peut changer, c'est la manifestation de celle-ci. Et c'est hyper important de le comprendre, parce que là, ça fait 40 ans que les Israélites, et je vous laisserai lire Exode et Nombre si vous voulez en lire plus, mais ça fait 40 ans que la présence de Dieu est manifestée à travers une colonne de feu et un nuage durant la journée. Ça fait 40 ans qu'ils connaissent la présence de Dieu comme ça. Et là, ils s'apprêtent de rentrer dans la terre promise, la terre de Canaan. Et ça va s'arrêter. Ce qu'ils ont connu de la présence de Dieu jusqu'à là va s'arrêter. Elle va changer, mais celle-ci va s'arrêter. Pareil pour la provision. Ils avaient la manne, ce pain qui tombait du ciel chaque jour. C'est génial, moi qui n'aime pas cuisiner, c'est trop bien. Il y avait la manne qui tombait du ciel chaque jour pendant 40 ans. Et là, ils s'apprêtent à rentrer dans la terre de Canaan. Du moment qu'ils touchent un fruit de Canaan, fini la manne, il faut apprendre à cuisiner. Mais en fait, est-ce qu'on comprend l'intensité de ça? C'est là où je me dis, mais c'est dingue cette histoire. Parce que nous, à ce moment-là, on est là, Dieu m'a abandonné. Hein. Alors là, c'est clair. Aïe, plus de colonnes de feu, plus de nuages, plus de manne. Mais est-ce qu'on réalise qu'en fait la manifestation de Dieu a simplement changé? mais en fait, sa présence est toujours là, sa provision est toujours là, sa protection est toujours là, ses promesses sont toujours là. Et dans nos vies, en fait, ça ressemble à quoi, ça ? Quand la manifestation de Dieu a changé, qu'il y a un moment pour de nouvelles choses, est-ce qu'on aura l'audace de suivre Dieu dans cette zone neutre ? Est-ce qu'on aura l'audace d'aller jusqu'à la terre promise et d'expérimenter une façon nouvelle de la présence de Dieu qui est manifestée, une façon nouvelle de sa provision, de sa protection et de ses promesses ? Est-ce qu'on reconnaît vraiment la main de Dieu dans nos vies et dans nos transitions ? Est-ce qu'on a envie de le reconnaître ? Est-ce qu'on expérimente, est-ce qu'on connaît ce Dieu qui est présent, qui nous protège, qui pourvoit, qui tient ses promesses dans nos transitions et dans nos zones neutres ? Je nous pose ces questions parce que notre réponse à ces questions va avoir un impact direct sur notre façon de suivre Dieu avec un cœur entier durant nos transitions. Je vais être très directe avec vous ce matin, ça vous va ? Il y a la moitié de la salle qui a dit oui. Alors l'autre moitié, je suis désolée, vous me pardonnerez. En fait, si on n'a pas confiance que Dieu restera présent, si on n'a pas confiance que... Attendez. Voilà. C'est la petite goutte avant la vérité. Si on n'a pas confiance que Dieu restera présent, si on ne développe pas cette confiance que... Il nous protégera, qu'il pourvoira et qu'il tiendra ses promesses. Ma plus grande crainte, c'est qu'à un moment, on va abandonner de suivre Dieu. C'est qu'à un moment, venu vraiment le moment de la zone neutre, où c'est méga inconfortable, et notamment si ça fait un petit moment qu'on y est, parce qu'on aimerait bien que ça dure qu'une semaine. En fait, des fois, on préférera presque rester dans le désert qu'on connaît bien, qui nous est familier, qui n'était pas si mal finalement, avec des gens qu'on connaît bien, avec un système finalement qui nous est familier aussi, plutôt que de suivre Dieu dans la zone neutre qui représente aussi l'entrée dans la terre promise et une nouvelle manifestation de ces quatre paix que je vous ai partagées plus tôt. Le titre de mon message, c'est « Un cœur entier dans les transitions ». Et si on veut développer un cœur entier pour Dieu dans nos transitions, il faut personnellement qu'on découvre et qu'on expérimente la présence de Dieu, la provision de Dieu, la protection de Dieu et ses promesses dans cette zone neutre. Là où parfois il y a plus de questions que de réponses. Je vais inviter l'équipe Louange à me rejoindre. Comme je l'ai dit avant, si j'avais plus de temps, je vous parlerais vraiment de ce que Dieu demandait à Josué, parce qu'il y a des choses très claires que Dieu demande à Josué dans ce passage et par la suite, dans cette zone neutre. Mais j'ai envie aujourd'hui, ce matin, de m'arrêter à là. Dieu demeure dans ta zone neutre. Dieu demeure dans ta transition. Et il est personnellement, profondément impliqué. Et il y a quatre choses à laquelle tu peux te raccrocher. Et je pense que, honnêtement, on doit apprendre à se raccrocher. C'est sa présence, c'est sa protection, c'est sa provision et c'est ses promesses. Et pour conclure ce message, plutôt que de se demander qu'est-ce que toi tu peux faire dans cette transition, qu'est-ce que toi tu peux faire pour peut-être provoquer la sortie d'une zone neutre ou comment bien cultiver cette zone neutre, etc., j'aimerais qu'on se demande qu'est-ce que Dieu est en train de faire et dit dans nos transitions. On va mettre le spotlight sur lui un instant. Qu'est-ce que Dieu fait et dit dans ma transition ? Peut-être que pour certains d'entre nous, on est en plein dedans, donc ça vous parle vraiment. Peut-être que pour certains, vous êtes là, moi, je cruise. Je n'ai pas l'impression que je suis en train de vivre une transition. Prenez ça comme, comment est-ce que je vais choisir de vivre la transition qui arrive, parce qu'il y en a toujours une qui arrive. Et ce matin, on a vraiment un moment précieux qui nous est donné et offert
pour reprendre position ou pour prendre position pour la première fois de comment est-ce qu'on va choisir de vivre le changement dans nos vies. Comment est-ce qu'on va choisir de vivre les transitions avec Dieu.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.